Sunwo Assurance, présente dans plus de 14 pays d'Afrique, assure la pleine forme de tous nos champions et championnes d'Afrique. Suivez Priorité Santé. Sunwo Assurance, notre métier d'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Chaque année, d'après l'OMS, 15 millions de bébés naissent prématurément, c'est-à-dire avant 37 semaines de grossesse. Naître avant l'heure, pourquoi ? Ces accouchements prématurés peuvent s'expliquer par des conditions de vie difficiles de la mère, son âge, ses antécédents, le fait qu'elle ait contracté une infection ou qu'elle souffre d'une maladie chronique. La prématurité peut aussi trouver des explications du côté du fœtus, grossesse multiple, anomalie dans le développement. Ce sont encore des complications au cours de la grossesse qui sont susceptibles d'avancer le terme de cette naissance. Naître avant l'heure, mais dans quelles conditions ? La prise en charge et la survie de ces nourrissons dépendent là encore de multiples facteurs. La durée de la gestation, le poids de naissance ou encore le sexe, et bien sûr le contexte socio-économique et de la qualité du système de santé déterminant pour la survie de ces minuscules bébés qui souvent pèsent moins d'un kilo. Aujourd'hui en France, ce sont près de 60 000 bébés prématurés qui voient le jour et grandissent. Des enfants qui, au regard des statistiques, survivent de mieux en mieux à cette épreuve initiale. Mais la prématurité n'en demeure pas moins souvent une expérience douloureuse pour des parents bouleversés par une naissance qui ne ressemble pas à ce qu'ils avaient imaginé. Une épreuve complexe qui engage une famille en devenir. Accueil et prise en charge des bébés prématurés. Pour en parler avec nous, professeur François Goffinet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de service de la maternité Port-Royal à Paris. Et à vos côtés, professeur Pierre-Henri Jarreau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de médecine et de réanimation néonatale au sein de cette même maternité de Port-Royal. Témoignage d'une maman aussi dans cette émission, Marina Soleil, bonjour.
Bonjour.
Il y a 4 ans, vous avez donné le jour à Eva, après seulement 6 mois de grossesse. Et Marina Soleil, aujourd'hui, vous attendez un autre bébé. Et puis accueil des prématurés, cette fois du côté de la Côte d'Ivoire. On va retrouver tout à l'heure en ligne d'Abidjan le professeur Madeleine Folquet, chef de service de pédiatrie au CHU de Cocody d'Abidjan. À compter d'aujourd'hui, RFI diffuse du lundi au vendredi à 12h, temps universel sur l'antenne Afrique, une fiction radiophonique. Son titre, c'est La vie, le quotidien dans un centre de santé. On va en parler en fin d'émission avec Mbatio Dio, directrice de l'ONG RAES, qui a coproduit et développé l'adaptation de la série télé à la radio.
Priorité santé sur RFI.
Marina Soleil, je l'ai dit il y a quelques instants en vous présentant, vous êtes enceinte aujourd'hui de 6 mois. Et 6 mois, c'est le terme de votre premier bébé, une petite fille qui est venue au monde, c'était il y a 4 ans. Comment est arrivée justement cette naissance, comment ça s'est passé ?
Effectivement, j'ai accouché à 6 mois il y a 4 ans. Eva est née parce que j'ai une maladie qui s'appelle la pré-éclampsie, le syndrome de HELLP. Et donc du coup, effectivement, les médecins ont dû m'accoucher pour me sauver à moi et sauver aussi le bébé, puisque on était toutes les deux en souffrance. Et du coup, j'ai accouché à 30 semaines exactement.
Il y avait des signes avant-coureurs ?
Il y a eu des signes avant-coureurs que je n'ai pas su voir parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas la maladie. Heureusement, j'étais prise en charge très très rapidement à la maternité à Port-Royal où j'ai accouché il y a 4 ans. Et du coup, tout s'est bien passé. Aujourd'hui, Eva va bien.
Marina Soleil, prise en charge en urgence, comment ça se passe entre le moment où on sent dans son corps que quelque chose va mal et le moment où le bébé arrive ?
Pour moi, ça a été un peu violent parce qu'effectivement, j'ai une grossesse qui s'est très bien passée jusqu'à 6 mois. J'avais pas de signe avant-coureur au premier trimestre de ma grossesse, ni deuxième. Et du coup, c'était très violent parce que je ne connaissais pas la maladie et j'ai accouché en 48 heures, du coup, entre le moment où j'ai été prise en charge aux urgences et l'accouchement, le temps de me faire des piqûres de corticoïdes à l'époque qui ont pu aider le bébé à se développer un peu plus rapidement. Et l'accouchement, donc, c'était assez violent psychologiquement. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à accepter cet accouchement prématuré, plus la césarienne, du coup, qui était nécessaire à l'époque parce que le bébé était très petit, Eva pesait 900 grammes. Du coup, ça a été un peu violent, mais j'ai été accueillie par des équipes à Port-Royal qui ont été extraordinaires, tant du côté de la maman, de moi, que du côté néonat où on a été accueillis et on ait beaucoup d'explications sur la prématurité et tout ce qui s'en suivait.
C'est une structure hospitalière spécialisée justement dans ce type de naissance très particulière. Professeur François Goffinet, dans le cas de la petite Eva, qui a mis au monde Marina il y a 4 ans, c'est un cas d'extrême prématurité ?
Voilà, c'est un cas, alors de, je vais pas trop être trop dans les détails, c'est un cas de grande prématurité. Donc, je crois que c'est très bien de revenir un tout petit peu là-dessus pour que les gens ne confondent pas tout. C'est-à-dire, quand vous dites effectivement, la prématurité c'est avant 37 semaines, c'est vrai. Donc c'est avant 8 mois pleins, hein. Donc avant que le 9e mois commence. Mais il faut bien avouer que la grande majorité des prématurés, enfin, il faut bien avouer, c'est très bien, ils sont entre 7 et 8 mois. Et donc, ils sont plus gros et plus matures que le bébé de notre maman, de notre témoin. Voilà. Donc, faut faire toujours attention un petit peu à ça parce que on bien sûr, dans les médias, on parle surtout de grande prématurité, d'extrême prématurité parce que c'est là où il y a le plus de risques. Il y a aussi des risques, hein, pour les prématurés dites modérés, ceux qui accouchent, les mamans qui accouchent à 7 mois et demi, mais ils sont un peu moins fréquents, un peu moins sévères en général, même s'il faut bien sûr s'en occuper.
On imagine bien, justement, quand on travaille en réanimation néonatale, c'est là que l'on a affaire à des cas particulièrement complexes. Professeur Pierre-Henri Jarreau, qu'est-ce qui se passe, justement, du point de vue de l'équipe médicale lorsqu'un bébé comme Eva vient au monde ?
Eh bien, donc, c'est une collaboration obstétrico-pédiatrique. Hein, on travaille complètement ensemble. Et donc, à la naissance, les néonatologistes réanimateurs sont présents pour permettre à l'enfant de survivre. Parfois, il survit sans trop de gestes techniques. Et puis, parfois, il faut aller un peu plus loin, lui mettre un tube pour l'aider à respirer, lui mettre des cathéters, etc. Et donc, on est présent dès la naissance pour prendre en charge cet enfant dans les meilleures conditions. On sait que ça, c'est très important. D'une part, que les néonatologistes soient présents, et ça se ressent dans la littérature. Et d'autre part, que ces enfants grands prématurés, là je reviens sur ce que disait François Goffinet, donc les moins de 32 semaines, naissent dans des structures spécialisées, ce qu'on appelle des maternités de type 3, parce qu'on sait que c'est pas très bon de les transporter dans les premiers jours de vie. Donc, voilà. Donc ensuite, ils sont une fois qu'ils sont réanimés, ils sont amenés dans la salle de réanimation qui est juste à côté, et ils vont entamer un parcours relativement long, puisqu'il faut imaginer que ces enfants sont hospitalisés à peu près jusqu'au terme qui était prévu initialement. C'est un parcours qui est complexe, qui est émaillé éventuellement de complications et qui va faire appel d'une part à une prise en charge de la respiration, donc avec des machines pour les aider à respirer, à une prise en charge qui leur permette de grossir, c'est-à-dire en leur apportant directement dans les veines et puis ensuite, ou dès le départ, mais progressivement directement dans l'intestin, ce qui va leur falloir pour grossir, et puis avec une surveillance étroite des éventuelles complications neurologiques qui sont liées à la prématurité.
Professeur Jarreau, on est loin de l'image simplement de la couveuse. C'est beaucoup plus que ça.
C'est beaucoup plus que ça pour les grands prématurés. Et je voudrais revenir sur ce qu'a dit François Goffinet. Dans un service comme le nôtre, où on a un peu plus de 1200 admissions par an, la grande prématurité, c'est à peu près 250 enfants. Donc c'est à peu près un cinquième de nos admissions. Alors on en parle plus et on les voit plus parce qu'ils restent très longtemps, contrairement aux autres qui restent beaucoup moins longtemps. Mais la prise en charge en néonatologie ne concerne pas que les grands prématurés.
Alors justement, professeur Goffinet, qu'est-ce qui va être déterminant ? Ça va être le terme, on va dire l'âge du bébé, le temps qu'il a eu de prendre ses aises dans le ventre de sa maman, mais aussi d'autres facteurs. Est-ce que le poids, c'est absolument déterminant ?
Oui, le poids est un facteur très important, comme le terme de naissance, mais il y a beaucoup de choses qui jouent également. Il y a effectivement ce que rappelait Pierre-Henri Jarreau, c'est tout ce qui va se passer en anténatal de manière conjointe entre l'obstétricien, le pédiatre et le couple. Surtout dans des âges extrêmes, puisque c'est souvent ça qui intéresse un peu les gens, malheureusement, entre guillemets, mais c'est vrai que c'est des situations éthiques qui posent des problèmes que tout le monde peut comprendre. Est-ce qu'il faut prendre en charge ou non cet enfant ?
Avec le terme qui est très dur à entendre, ce terme de viable.
Oui.
On dit à partir de quand un bébé est viable ? Dans les médias, on entend record de naissance, etc. Oui. C'est pas notre sujet aujourd'hui du tout. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut garder à l'esprit.
Tout à fait. Il y a bien sûr un poids de naissance et puis un terme où on considère qu'on ne peut pas prendre en en charge l'enfant, que c'est vraiment pas du tout raisonnable, ça lui occasionnerait des souffrances et des espoirs pour les parents tout à fait inutiles. Mais c'est vrai que quand on est ce que nous on appelle les limites de la viabilité, on dit jamais qu'un enfant est viable ou pas viable. Les limites de la viabilité, il y a des discussions, et là les critères dont vous parlez sont très importants, hein. À terme égal, le poids de naissance va être déterminant. À poids de naissance égal, le terme va être déterminant, il vaut mieux être un peu plus vieux. Et est-ce qu'il y a d'autres critères, comme l'infection donc que vous avez rappelé tout à l'heure? Voilà, et donc il faut qu'il y ait une discussion avant. Et quand Pierre Giraud disait tout à l'heure, on est là à la naissance, mais ils sont là avant la naissance, puisqu'on va voir les parents avant, en général, avec l'obstétricien, on va voir le couple pour leur délivrer une information, puis discuter avec eux de ce qu'ils souhaitent, de ce que l'on va faire à la naissance, compte tenu des risques pour l'enfant.
Et il s'ensuit une longue hospitalisation, 3 mois pour votre fille Eva, hein, Marina Soleil. Est-ce que vous pouvez nous décrire à quoi ressemblaient dans les premières semaines vos journées, justement? Qu'est-ce qui se passait pour vous et pour le bébé?
3 mois d'hospitalisation, 3 mois d'un parcours, comme l'a dit le professeur Jarreau, assez long pour les médecins, je pense, mais aussi pour les parents, effectivement, et qui est fait de haut et de bas. Les premiers jours après mon accouchement, moi, c'était déjà une remise psychologique, je pense, de mon mari et de moi-même. Et ça a été pour moi, par exemple, très difficile d'aller voir le bébé. À l'époque, Eva, qui était très petite et qui avait pas du tout la forme de ce que moi je pensais qu'était un bébé à l'époque. Et ensuite, mes journées, enfin, moi, j'étais à Port-Royal et le service est ouvert 24 heures sur 24 pour les parents en néonatologie. Donc, de 7 heures du matin jusqu'à 22 heures, j'étais à l'hôpital avec Eva pour m'occuper d'elle toutes les 3 heures à l'époque, avec l'aide des infirmières et des médecins. Et c'était vraiment une routine qui s'est installée au cours des 3 mois. Et les 3 premières semaines, je dirais, étaient les plus compliquées, puisqu'effectivement, le terme était tôt, elle était petite, donc l'idée c'était de lui faire gagner du poids le plus rapidement. Et on parle de 20 grammes par jour à peu près, donc c'est compliqué, parce que parfois elle perd du poids, elle en reperdait, le lendemain elle en regagnait, enfin c'était vraiment des hauts et des bas. Et après, la fin pour Eva, en tout cas, c'est différent, je pense, selon tous les bébés, mais pour Eva, la fin de son hospitalisation a été plus facile, parce qu'on a eu de la chance, elle a pas eu d'infection, elle a évolué plutôt positivement, et du coup, les journées étaient rythmées quand même. Enfin, on est resté à l'hôpital de 7h du matin jusqu'à 22h, jusqu'à la fin. Et j'avais pas d'autres enfants à l'époque, donc
les choses étaient plus simples. Paradoxalement, ouais. C'est peut-être le retour à la maison qui a fait un petit peu peur.
Oui. Quand ils m'ont annoncé qu'on allait sans doute pouvoir rentrer à la maison, bizarrement, j'avais pas trop envie de rentrer.
Ce qu'on attend vraiment au début, à la fin, on le redoute.
Ouais. Et en fait, bon, ça s'est fait progressivement. On est très bien suivi. Hein. Moi, j'étais suivie par une psychologue, des pédiatres, mon médecin, etc. Mais du coup, c'est vrai que j'appréhendais normalement le retour à la maison et de me dire qu'elle allait être surtout sans machine, puisque au cours des 3 mois, on apprend à, pas du tout à être médecin, mais à détecter quand même ces battements de cœur, etc. Plein de choses que du coup j'avais plus à la maison et ça me stressait un petit peu. Mais finalement, ça s'est plutôt bien passé. Et là, c'est vrai qu'on appréhende un peu avec mon mari. Enfin, on n'appréhende pas. J'espère qu'elle va accoucher, que je vais accoucher à terme. Mais je me dis, en fait, si j'accouche à terme, du coup, ça veut dire qu'au bout de 3-4 jours, je serai rentrée à la maison.
Ça se passe très bien en général. Hein, tout ça, un petit peu prévu pour ça. Professeur Pierre-Henri Jarreau, il y a vraiment un travail conjoint qui s'engage entre l'équipe médicale et les parents. Il y a une sorte de connivence, mais au-delà, il y a un partage des tâches qui s'établit.
Alors absolument, c'est essentiel, c'est-à-dire qu'on incite les parents immédiatement à venir le plus vite possible et le plus longtemps possible, évidemment en fonction de leur disponibilité dans le service. Il est relativement bien montré dans la littérature que la présence des parents est essentielle pour le devenir, en tout cas à long terme, des enfants, mais leur présence précoce est très importante. Évidemment, on ne va pas demander aux parents de faire des gestes techniques, hein, mais changer la couche, progressivement, quand l'enfant va être capable de prendre un biberon, donner le biberon ou le sein, si c'est un allaitement maternel. Tout cela était évidemment très important. Il y a vraiment un partenariat, et c'est un partenariat permanent où on discute aussi régulièrement du devenir de l'enfant, des questions qui peuvent se poser, et parfois, malheureusement, quand les choses évoluent mal, des décisions complexes à prendre en charge. Donc la présence des parents est absolument indispensable. Et on les voit, comme l'a dit François Goffinet, en anténatal, on les voit en entretien obstétrico-pédiatrique, les obstétriciens et les pédiatres ensemble, pour leur annoncer ce que c'est que la prématurité, le parcours et les risques sur le long terme. Mais ensuite, c'est un partenariat qui reste permanent tout au long de l'hospitalisation, et j'allais dire après, puisqu'on suit ces enfants en consultation.
Alors, on va dans quelques instants donner la parole aux auditeurs de Priorité Santé. Tout de suite, on part pour la Côte d'Ivoire. On retrouve en ligne d'Abidjan le professeur Madeleine Folquet. Bonjour. Bonjour professeur Folquet. Alors vous êtes chef de service de pédiatrie au CHU de Cocody. Professeur Folquet, au sein de votre hôpital, l'équipement, les effectifs sont loin de correspondre à ce qu'on a entendu là depuis le début de cette émission, hein, dans les grandes maternités françaises, en particulier dans ces services spécialisés. Qu'est-ce que ça change, les conditions d'accueil, les conditions justement matérielles pour l'arrivée de ces prématurés?
Merci. C'est vrai qu'on a entendu ce qui se passe dans les pays, je dirais, développés. Chez nous, dans nos pays, c'est vraiment tout. C'est vrai que nous avons évolué dans la prise en charge de ces enfants, mais c'est loin d'atteindre ce qu'on voit chez vous, parce que généralement, nos blocs néonataux, comme on dit, ne sont pas du tout adaptés. Donc, on a vraiment des problèmes pour prendre en charge ces prématurés.
Et au-delà, est-ce que vous avez suffisamment de place, je dirais très concrètement, ou est-ce qu'il arrive qu'il y a des mamans que vous n'arrivez pas à prendre en charge?
Ah oui, parce que si je fais mon bilan de 2018, je peux dire que nous avons eu 3720 entrants et nous étions obligés d'évacuer 1695. Pour manque de place, dont 20% de prématurés.
Donc c'est des choses qui mettent en jeu le pronostic vital de ces bébés, hein, quand ils doivent se déplacer, aller ailleurs avec la maman dans des conditions très 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 compliquées.
Ça c'est vrai. Et même pour nos structures, même, on n'a pas de place pour les mamans. C'est vrai que nous avons une salle kangourou, mais ce n'est que 3 lits. Donc c'est que 3 mamans qui pourront bénéficier avec leur nouveau-né prématuré, hein, de cet avantage qu'est la méthode de soins kangourou.
Et Priorité Santé s'était rendu récemment à Cocody. On a vu les mamans qui étaient allongées dehors, sur les terrasses, sur des paillasses et qui dorment dehors comme ça, quand les bébés sont à quelques mètres de là, dans les petites couveuses.
Bon, c'est vrai, nous ne pouvons pas accueillir les mamans et les nouveau-nés ensemble parce que ce n'est pas adapté. Mais aussi à CHU de Cocody, nous avons eu l'abri des mamans, l'abri des parents de malades, qui nous a été offert tout récemment par le CNR. Et les mamans ne veulent pas y aller parce qu'elles sont un peu trop éloignées de leur enfant. Donc ça pose le problème de la sensibilisation, parce que là-bas, au moins, elles sont dans des conditions pour venir s'occuper de leur enfant. Mais on ne peut pas les recevoir 24 heures sur 24 dans nos blocs néonataux, alors qu'on sait que c'est un partenariat, comme il l'a dit le professeur, un partenariat qui doit être permanent, elle doit être intégrée dans les soins, on le sait, mais on n'a pas de structure adaptée pour ça.
Alors on va justement revenir sur ces conditions particulières d'exercice tout de suite. On donne la parole aux auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et le premier de ses auditeurs, il est en ligne du Togo, de Lomé, c'est Eric. Bonjour Eric.
Oui, bonjour Caroline.
Nous sommes à votre écoute, allez-y.
Ok, merci beaucoup pour l'émission. En fait, j'ai un témoignage par rapport à ma fille qui est née prématurément. Elle est née à 7 mois de 2 semaines. Mais c'est fait que, à sa naissance, la structure dans laquelle elle est née, il n'avait pas de couveuse. Donc l'enfant est né autour de 19h30, mais c'est jusqu'au-delà de pratiquement minuit qu'on a pu trouver une structure d'accueil. Parce qu'on a dû la déplacer comme ça dans un véhicule ordinaire pour chercher une place dans un hôpital pour la mettre. Maintenant, j'ai remarqué que après 8 mois, mon enfant n'arrive pas à tenir le coup. Donc, elle avait tendance à envoyer le cou en arrière. Et c'est là qu'on a consulté un pédiatre. Et depuis, on est sous traitement. Et on avait fait un scanner en temps qui a détecté une atrophie cérébrale. Donc, actuellement, on est avec un neurologue qui nous suit. Mais bon, il dit que le traitement sera long. Donc, c'est pourquoi je veux savoir s'il peut avoir un traitement alternatif ou bien si on peut aboutir à une opération chirurgicale qui puisse guérir ma fille. Aujourd'hui, elle a 1 an et demi, mais elle n'arrive pas encore à faire les actes ordinaire d'un enfant de son âge.
Eric, c'était un premier bébé ou il y avait déjà d'autres enfants dans la famille ?
Il y avait d'autres enfants dans la famille. Elle a deux sœurs.
Elle a deux sœurs, donc il faut s'occuper de ce petit bébé qui a donc des soucis de croissance et puis en même temps des deux autres enfants, c'est bien ça ?
Oui, bon, non, les deux n'ont aucun souci.
Non, c'est ça, mais ça fait quand même trois enfants à la maison à s'occuper avec un bébé.
Oui,
un bébé
quand même.
J'imagine que ça vous a nécessité beaucoup d'argent pour tous ces soins. Comment vous faites ?
Justement. Actuellement, on est en train de faire des séances de massage. Et puis, il y a les traitements, il y a les sous-masinants, les trucs là qu'on prescrit chaque fois pour que le cerveau puisse fondre.
Alors, je vais me tourner vers le professeur Pierre-Henri Jarrot. On voit cette petite fille qui a été prise en charge plusieurs heures après sa naissance, donc après 7 mois et 2 semaines de grossesse. Eric, son papa, s'inquiète justement pour son évolution. Il fait pas mal de soins, il a fait beaucoup d'analyses là-bas à Lomé au Togo. Et il dit, est-ce qu'il y a une option chirurgicale pour ce type de problème ? Est-ce qu'on peut lui répondre ? Déjà, c'est pas forcé, mais est-ce qu'on peut lui répondre ?
C'est difficile de répondre à distance,
voilà,
parce que l'histoire que nous raconte Eric, c'est pas d'une grande prématurité. Hein. Si je calcule grossièrement, on est plutôt à 34-35 semaines. Ce sont des enfants qui posent habituellement beaucoup moins de problèmes en termes statistiques. Donc la première question à se poser, c'est est-ce que les difficultés sur le plan neurologique de cet enfant sont uniquement liées à la prématurité ou est-ce qu'il y a autre chose de sous-jacent ? Ça c'est une première question. La deuxième question c'est la prise en charge. Là moi je suis pas neurologue, alors les médicaments je vais pas en proposer. Ce qu'on peut dire c'est qu'en tout cas il y a certainement des possibilités autour de la kinésithérapie et de la psychomotricité pour améliorer les choses. Si je puis me permettre, en fait ça pose un problème absolument majeur dans la prise en charge de la prématurité. La prise en charge de la prématurité, c'est la prise en charge obstétricale, c'est la prise en charge néonatale immédiate dans des équipes spécialisées, mais c'est aussi le suivi. C'est-à-dire que un certain nombre de ces enfants, statistiquement, pas tous, hein, loin de là, vont poser des problèmes qui supposent qu'on ait un suivi et une prise en charge correcte en termes de kiné, de psychomotricité, de suivi neurologique. Et c'est un problème évidemment majeur dans les pays en Afrique par exemple, mais c'est aussi un problème qui existe en France. Hein. C'est pas forcément simple de faire prendre en charge.
Sauf que là, il n'y a pas de couverture mais santé, voilà. Donc tout cela, voilà. Ça coûte extrêmement cher aux parents. À Lomé, il y a des ressources au niveau médical. On peut trouver justement, comme Eric nous l'a dit, puisqu'il a fait des séances de kiné à son bébé, mais encore faut-il payer, surtout quand il y a d'autres enfants à la maison. Voilà, Eric, pour cette réponse. En tout cas, vous allez les faire, ces séances de massage pour votre bébé ? Vous allez les faire ?
Oui, là, on continue. On avait préinscrit 30 séances au Sénat. Ce qu'on on a fini en temps, donc on a encore préinscrit 30 autres séances. Et là, je crois qu'on est pratiquement à la 15e ou à la 16e séance.
Et vous voyez des changements ? Ou au moins, est-ce que vous voyez le bien-être du bébé quand on lui fait ces séances ?
Bon, là, quand lui fait, elle pleure beaucoup, tout et tout. Mais moi, personnellement, je ne vois pas encore les résultats. Mais bon, quand les médecins ont dit que c'est un truc qui ne va pas arriver automatiquement, donc on espère.
Okay. Ben merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage, Eric. Très bonne journée à Lomé. On va partir pour le Mali, pour Bamako, où Souleymane est en ligne. Bonjour Souleymane.
Bonjour Caroline.
On vous écoute Souleymane.
Au fait, moi j'ai un enfant, un grand prématuré en 2010.
Mm-hmm.
L'enfant il est né à partir de 6 mois de grossesse. Et à la naissance il avait moins de 1000 grammes, à peu près 900 grammes. Et du coup, j'étais à l'intérieur du pays, la sage-femme a eu l'audace de faire accoucher ma femme à domicile. Et puis, voilà, le temps de prendre l'enfant et l'amener au CHU Gabriel Touré, ça a pris pratiquement quelques heures. Et au finish, jusqu'à présent, bon, les séquelles continuent avec l'enfant. Bon, quand je l'ai présenté à un neuropédiatre, il dit qu'il souffre d'IMC, infirmité motrice cérébrale.
Mm-hmm.
Bon, ensuite, on a commencé à faire les sciences de kiné dans un centre qui est situé à peu près à une trentaine de kilomètres d'ici. Bon, la distance et le temps avec les autres enfants, bon, c'est maintenant compliqué. Bon, maintenant, il était aussi sous traitement avec des produits comme Ivotril et d'autres produits à base d'oméga 3. Finalement, quand il y a eu manque de Ivotril sur le marché, l'enfant faisait des crises et du coup j'ai changé de neuropédiatre et suis allé chez un autre neuropédiatre qui l'a mis sous des patines qui est moins dépendant. Bon, maintenant,
Votre enfant fait des crises d'épilepsie, c'est ça?
Bon, ça c'est dû au manque de Ivotril. Bon, finalement, j'ai arrêté tous les traitements avec les produits. Maintenant, on fait de temps en temps des séances de kiné, la rééducation fonctionnelle. Et puis voilà. Bon, c'est un enfant quand même qui est très intelligent. Il a fait la maternelle, mais malheureusement, il ne peut pas se servir de ses membres. Raison pour laquelle il ne peut pas fréquenter l'école. Quand même, il apprend les récitations. Il savait chanter l'hymne national du Mali. Et il était parmi les meilleurs à la maternelle, mais malheureusement, il ne peut pas... Voilà,
parce qu'il n'y a pas d'école spécialisée pour l'accueillir, c'est ça?
Non, pas du tout. Même les jardins d'enfants qui nous a accueillis, vraiment, je profite de l'occasion pour saluer les promoteurs, qui n'est pas du tout un centre spécialisé, mais qui a pu faire ce que les centres soi-disant spécialisés n'ont pas pu faire. Parce qu'au début, je l'ai amené là-bas, après, il y a eu des problèmes, il n'avait aucun niveau. Je l'ai transféré dans un centre, dans une maternelle ordinaire. Et maintenant, grâce à leur courage, ils ont pu vraiment apprendre l'enfant pas mal de choses. Non. Et maintenant, jusqu'à présent, le problème persiste. J'aimerais savoir si le professeur peut me donner des conseils, quelles sont les conduites à tenir pour qu'ils puissent au moins avoir une certaine autonomie, ne serait-ce qu'au niveau des membres supérieurs.
On imagine bien que c'est une question très très complexe, Souleymane. Hein. Je me tourne vers vous, Pierre-Henri Jarreau. Ce qu'on se constate surtout, professeur, c'est que les moyens d'accueil, les réponses médicales et socio-médicales sont loin d'être ce qu'il faudrait pour pouvoir justement prendre en charge correctement ce petit garçon.
Oui, je crois que vous venez de résumer la situation, hein, la prison. Alors, les problèmes que présente cet enfant ne sont pas rares, même s'ils sont moins fréquents maintenant, en tout cas dans nos populations, qu'avant, hein, l'infirmité motrice d'origine cérébrale. Mais ça suppose effectivement une prise en charge à la fois de rééducation, éventuellement de fauteuil si c'est nécessaire, et une prise en charge scolaire, c'est-à-dire que ce que nous on peut obtenir en France avec des auxiliaires de vie scolaire, par exemple, pour aider ces enfants qui vont dans des écoles normales, non spécialisées, évidemment, ça semble très compliqué au Mali. Ce que vous posez comme problème essentiellement, mais je pense que c'est pas la première fois, c'est que les soins c'est très bien, mais que l'organisation des soins et les investissements qui sont faits dans la santé sont évidemment essentiels pour faire des progrès.
Essentiel de donner des réponses à ses parents, on l'a entendu, hein, qui ont des questions très simples. Des questions très simples, c'est que quelqu'un puisse prendre en charge correctement leur enfant. On vous remercie beaucoup, hein, Souleymane, pour ce témoignage. Un dernier témoignage, Mauritanie, Nouakchott, c'est Eboul qui est en ligne. Bonjour Eboul.
Bonjour.
On vous écoute Eboul.
Moi j'ai mon premier garçon qui est né en août 2010. Mmh. Il est né à 7 mois. Et il se portait bien, il a suivi tous ses vaccins, ce truc prénatal et néonatal aussi. Mm-hmm. Mais je constate que c'est un gars qui ne joue pas trop, il est très timide. Et il faut que ses devoirs à l'école, il faut qu'on insiste plusieurs fois, il ne capte pas facilement. Il y a quelque temps, je l'ai amené dans un internat coranique pour qu'il puisse apprendre le Coran. Et il a fait là-bas 2 ans, mais ça n'a rien donné, en fait. Son niveau n'a pas du tout évolué. Je l'ai fait sortir de l'internat pour l'amener à la maison. Donc, du coup, il faut toujours le renforcer et le pousser à jouer avec ses frères. Il est timide. Il préfère rester seul. Je me demandais est-ce que c'est pas le fait qu'il soit prématuré qui peut causer ce genre de comportement.
Je ne suis pas médecin, Boule, mais il y a plein d'enfants qui sont très timides et il n'y a aucun rapport avec leurs problèmes de santé. Hein. On a tous des enfants timides qui restent un petit peu dans leur coin. Après, il y a d'autres enfants qui n'ont aucun problème de santé, qui ne sont pas, on va dire, trivialement, des flèches à l'école non plus. Donc l'important, c'est, il parle bien, il lit bien, cet enfant ?
Oui, il parle bien, il lit bien.
Bon, bah maintenant je donne la parole au vrai médecin, hein, le professeur Jarreau. Voilà un enfant qui est un petit peu replié. On peut pas, j'imagine qu'on peut pas forcément faire de lien entre ses conditions d'arriver au monde et puis justement son comportement là dans ce cas précis.
Oui, ça, je crois que vous avez tout à fait raison. Cette mois de grossesse, c'est évidemment une prématurité importante, mais c'est pas une extrême prématurité. Donc il y a tout de même, encore une fois, statistiquement beaucoup moins de risques pour ces enfants que pour les enfants beaucoup plus prématurés. J'allais dire que dans la prématurité, il y a évidemment les risques immédiats de lésions cérébrales qui peuvent survenir, mais il y a aussi le regard qu'on porte sur un ancien prématuré. C'est-à-dire que comme ça a été un prématuré, on se demande toujours, les parents, et peut-être pas que les parents malheureusement, se demandent toujours, ah mais est-ce que, s'il fait pas ci ou s'il fait pas ça, est-ce que c'est lié à cette prématurité? Et donc il y a quelque chose qui est derrière, qui probablement modifie l'attitude parentale, ce qui est normal, hein. Ils ont vécu plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois dans un service de néonatologie, c'est extrêmement difficile. Et donc, ils modifient leur approche de l'enfant et le regard sur l'enfant. Et là, il faudrait peut-être le faire examiner, mais ce que le papa dit, finalement, c'est que c'est un enfant qui se développe pas si mal que ça, mais qui peut-être est un peu plus renfermé parce que l'attitude qu'on a avec lui, ou qu'à son frère, enfin, ça peut être la fratrie, est peut-être un peu à l'origine de ça. Donc, je crois qu'on peut pas tout rapporter à la prématurité.
Tout mettre sur le dos de la prématurité.
Sauf à travers le regard que l'on porte sur ces anciens prématurés.
Voilà, Eboul. Bonne journée pour vous à Nouakchott. Il y a une autre question Facebook qui peut paraître anecdotique, voire pour certains comique, mais je pense que c'est pas si idiot que ça, cette question. Une question d'Abderrahman au Tchad qui dit, est-ce que les travaux ménagers excessifs peuvent causer la prématurité? On a parlé tout à l'heure comme facteur de la fatigue des mamans. Donc, professeur Goffinet, cette question, je pense qu'elle a tout son sens.
Oui, ça a été, c'est une question qui avait encore plus de sens il y a encore 30 ou 40 ans, parce qu'on a beaucoup insisté là-dessus, qu'il fallait que les femmes s'arrêtent, etc. Ce qui est une très bonne chose, bien sûr. Alors, est-ce qu'en eux-mêmes, ces travaux ménagers vont entraîner l'accouchement prématuré? Non. C'est un facteur supplémentaire chez une patiente qui va avoir d'autres types de problèmes. C'est vrai que, alors puis il faut voir un peu quel type de travaux ménagers excessifs on parle, hein, mais c'est vrai que des femmes enceintes qui ont un travail très fatigant, un travail debout, très lourd, il y a beaucoup de femmes enceintes qui ne vont pas accoucher prématurément, qui sont dans cette situation-là, mais c'est un facteur supplémentaire s'il y a d'autres signe qui existe chez cette patiente pour qui favorise un accouchement prématuré.
Quand on parle de médecine, on parle souvent des progrès de la médecine. On peut dire que justement sur cet accueil des bébés prématurés, professeur Goffinet, il y a eu des avancées vraiment significatives sur les 10, 20, 30 dernières années.
Oui, il y a eu beaucoup d'avancées. Alors je dirais, bon, il y a eu des avancées médicales, thérapeutiques, un petit peu en anténatale pendant la période obstétricale sur le plan thérapeutique, puisque madame tout à l'heure évoquait les corticoïdes, effectivement, qui sont des médicaments que l'on donne à la femme enceinte et qui vont passer la barrière placentaire et qui vont avoir une action sur le développement ultérieur des poumons du bébé. Ça, c'est une première chose. Il y a eu beaucoup de progrès techniques de la part des pédiatres. J'aimerais bien dire que tout est grâce à nous, les obstétriciens, mais les pédiatres aussi ont une action efficace. Et puis, je dirais, vous avez soulevé ça, et on voit bien dans les témoignages que vous avez en Afrique, qu'il y a quelque chose de fondamental, c'est l'organisation des soins. Et donc, l'organisation des soins, la France s'est mis depuis longtemps dans une organisation pour prendre en charge ces grands prématurés. C'est ce qu'on appelle la régionalisation des soins périnatales, et c'est de faire en sorte que la très grande majorité des mamans qui accouchent prématurément accouchent dans un endroit avec un plateau technique et humain qui a l'expérience, qui a la technicité pour prendre en charge ses enfants. Et ça, c'est bien sûr fondamental.
On vous retrouve justement en ligne d'Abidjan, professeur Folquet. On a bien entendu, hein, au travers de ces témoignages, la Mauritanie, le Togo, le Mali, que les papas, hein, sans colère, très calmement, disaient que l'arrivée de ces prématurés, elle ne s'est pas passée comme il l'aurait souhaité, comme il aurait fallu, parce qu'il n'y avait pas les moyens à la hauteur.
C'est ça. En effet, il n'y a pas les moyens. On l'a vu, hein. Il existe un écart de survie impressionnant des prématurés selon leur lieu de naissance. Si, par exemple, en Europe, je dirais, c'est peut-être les grands, les très grands prématurés qui vont mourir, chez nous, la moitié des prématurés nés à la 32e semaine continuent de mourir. Donc, les premiers moments de la vie sont très importants pour la survie de l'enfant et une survie de qualité. On le voit, ceux qui réussissent à survivre vont développer plus tard des séquelles. Donc, tout cela est lié à la logistique de la prise en charge. Donc, c'est vraiment la réalité, hein, qui existe chez nous en Afrique. Et on devrait agir sur la prévention, hein, pour ne pas que, parce qu'on ne peut pas gérer ces handicaps, ces gros handicaps, vous l'avez vu, qui risquent même de séparer les familles. Parce que toute la charge revient à la famille.
Alors justement, vous dites prévention, très important donc, quand on n'a pas forcément tous ces moyens pour accueillir, très important, le suivi de la grossesse, professeur Folquet, là aussi, il faudrait vraiment faire des progrès sur ce plan.
Oui, allô?
Oui, justement sur ce côté de la prise en charge, oui, des mamans avant la naissance.
C'est ça, moi, sur l'émancipation accrue et l'éducation de nos femmes, surtout des adolescentes, et puis le suivi de la grossesse, mais à amener les femmes à venir en consultation prénatale. Il faut vraiment que le package offert soit gratuit et l'accueil soit vraiment de mise pour qu'elles se sentent à l'aise pour venir en consultation prénatale. Il faut également agir sur faire la promotion de la nutrition et des soins maintenant essentiels offerts aux nouveau-nés. Donc, c'est tout un package qu'il faut offrir. Et ça nécessite vraiment l'implication de tous, hein, que ce soit la communauté, la famille, l'engagement de l'État, le personnel soignant, franchement, pour agir sur cette prévention d'accouchements prématurés.
Alors, on va parler de quelque chose qui marche au sein de votre service, quand même. C'est cette unité de soins kangourous. Est-ce que vous pouvez nous décrire son fonctionnement?
Bon, l'unité de soins kangourous, on l'a mis en place vu que on a vu comment c'était essentiel pour les mamans d'être aux côtés de leurs enfants et comment le contact peau à peau pouvait améliorer rapidement l'état de santé des enfants. Donc, on a pu avoir cette unité de soins kangourous avec 3 lits et les mamans des prématurés, généralement, nous avons la prématurité moyenne, c'est-à-dire 32, 34 semaines. Donc, quand l'enfant est bien, qu'il n'a pas de problème particulier, la maman reste avec son enfant et à l'aide d'une poche kangourou, l'enfant est dans cette poche et la maman contribue aux soins de l'enfant parce que il y a l'allaitement maternel qui se fait, elle est avec lui 24 heures sur 24, elle participe aux soins de son enfant, l'enfant qui est comme s'il était dans une couveuse puisqu'il a la température maternelle de 37 degrés, donc ça permet vraiment de pallier au déficit qu'on a des couveuses, et même je dirais que c'est mieux que les couveuses, parce qu'on voit que ces enfants-là grossissent plus rapidement que les autres enfants. Merci. Donc c'est vraiment une méthode qu'on gagnerait à multiplier dans nos structures.
Merci beaucoup, hein, pour toutes ces précisions. Merci d'avoir été en ligne d'Abidjan, où je rappelle, vous êtes professeur Folquet, chef de service de pédiatrie au CHU de Cocody.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
On aborde la dernière partie de cette émission, Priorité Santé sur RFI. Marina Solet, deuxième grossesse en cours, hein, on l'a dit tout à l'heure. Compte tenu de vos antécédents, après l'arrivée d'Eva, vous êtes suivie aujourd'hui de très près. Ça se passe comment? Qu'est-ce qui a changé par rapport au suivi de votre première grossesse?
Je suis effectivement suivie de très près, donc par à Port-Royal, toujours à Paris, et aussi en parallèle par mon médecin de ville, enfin ma gynécologue de ville. Ce qui a changé, c'est que je suis quand même moi beaucoup plus attentive aux différents signes, peut-être un peu trop, du coup une grossesse un peu angoissante, mais plus le temps passe, plus je pense que ça va mieux. Et j'ai un peu plus d'échographie aussi, effectivement j'ai la chance d'être suivie ici, donc j'ai des échographies une fois par mois, beaucoup d'analyses de sang pour suivre aussi mon état à moi de santé, donc oui.
Est-ce que vous avez l'impression, quand vous aurez passé le cap des 8 mois, que vous allez faire un gros ouf de soulagement et de dire ça y est, ou pas vraiment?
Dès 8 mois, ce serait, enfin moi, c'est mon objectif, mais déjà des 30 semaines de la naissance de ma fille Eva, ce sera déjà un gros soulagement.
Et c'est dans combien de temps?
C'est
dans une semaine. Et après cette naissance, cette arrivée d'Eva, vous avez bénéficié d'une prise en charge psychologique. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui?
Oui, j'ai recommencé du coup quasiment au début de ma grossesse, parce que j'ai mis du temps à me dire que je savais que je voulais un deuxième enfant. Je voulais déjà pas mal d'écart avant d'avoir Eva, mais j'ai mis du temps parce que j'avais peur pour moi et pour le bébé surtout. Et aujourd'hui, du coup, j'ai repris un suivi pour essayer de mieux vivre la grossesse, c'est ce qui m'aide beaucoup, parce que du coup, de parler à quelqu'un qui comprend et qui est un peu extérieur à tout ça, je pense que ça aide. Et plus le temps passe et plus les 30 semaines approchent, je suis un peu plus stressée, mais plus je vois que ça va. Et je pense que à 32 semaines, même si j'accouche à 32 semaines, par exemple, je serais contente quand même.
Professeur Goffineau, on a bien compris à travers ce témoignage, à travers tout ce que vous avez dit depuis le début de cette émission, c'est l'importance de l'équipe. Quand un bébé arrive trop tôt, c'est tout un système qui se met en marche pour l'accueillir, justement.
Oui. Tout un système qui se met en marche, qui doit être cohérent entre les différents acteurs. Il faut faire les choses qui ont été prouvées. Il y a l'aspect médical, il y a l'aspect psychologique, effectivement, qui est fondamental pour que cette maman puisse vivre sa grossesse pas trop difficilement, car on sait que c'est systématique, hein. Quand on a eu une difficulté comme ça lors d'une première grossesse, il y a des angoisses qui remontent. Donc il faut absolument prendre en compte cette situation. Oui, bien sûr.
Alors, 1er juillet, nouveauté votée à l'unanimité par le Parlement, qui concerne directement notre sujet du jour. Un congé supplémentaire pour les pères. On a peu parlé des pères, même si tout à l'heure, c'était des papas en ligne. Les pères de nouveau-nés hospitalisés dans une unité de soins spécialisés qui nécessite une mobilisation des deux parents, j'imagine, que vous approuvez.
Oui, bien sûr, oui.
Professeur Pierre-Henri Jarreau, ses pères, ils ont un comportement très différent des mamans quand on est dans un service de néonatologie.
Je ne voudrais pas revenir sur les problèmes sociétaux, mais la place du père n'est pas tout à fait celle de la mère, d'une manière générale.
Donc, mais ils veulent peut-être de plus en plus prendre leur place quand même.
Mais bien sûr qu'ils prennent leur place, ils ont leur place de père auprès de leur enfant, ils ont leur place immédiatement d'ailleurs. Ce sont souvent eux qui accompagnent l'enfant dans le service de réanimation, parce que la maman vient d'accoucher, elle peut pas bouger, et ils sont évidemment invités à être très présents. Le congé paternité est de ce point de vue-là extrêmement important, parce que eux ne bénéficiaient pas de congé prolongé, et donc forcément, au bout de quelques temps, ils ne peuvent venir que le soir ou le matin avant leur travail, mais enfin c'est... Voilà. Donc je pense qu'effectivement c'est un progrès, au même titre qu'il y a, je sais pas, je crois que c'est une quinzaine d'années ou une dizaine d'années, ça a été un très grand progrès de pouvoir allonger le congé maternité, puisque maintenant la différence entre 35 semaines et l'âge de naissance, la gestation de naissance de l'enfant est ajoutée au congé maternité, ce qui permet aux femmes de rester auprès de leurs enfants longtemps. Ce qui n'était pas le cas avant, malheureusement.
On n'a pas entendu parler de ce papa, Marina Solé, mais lui aussi, il a fallu lui donner un coup de main, un coup de pouce pour qu'il remonte la pente après l'arrivée de ce bébé trop tôt.
En fait, j'allais dire, c'est le père, enfin, en tout cas pour moi, ça a été essentiel. Mon mari m'a beaucoup aidé à moi en premier. Il a été un soutien sans faille. Et il s'est surtout beaucoup occupé du bébé, comme le dit le professeur Jarreau. Enfin, moi, à la naissance, j'ai une césarienne, donc je suis partie en salle de réveil directement après. Et lui, s'est occupé directement d'Eva et s'en occupait tout au long de l'hospitalisation. Alors, malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas cette loi où il y avait un mois de congé pour le père. Donc il venait le soir à la sortie du travail, c'est pour ça que souvent on restait jusqu'à 22h pour faire beaucoup de peau à peau, et on insiste beaucoup depuis tout à l'heure, on insiste beaucoup dessus, mais c'est vrai que moi j'ai avec Eva, je pense qu'on a fait à peu près 6 heures de peau à peau par jour, ce qui est beaucoup dans une journée, et mon mari Simon en faisait énormément, faisait 2 heures par jour aussi, et il a une place essentielle, et je pense que c'est un peu une situation frustrante pour eux aussi. Il y a un côté culpabilisant pour la mère, je pense, quand on accouche prématuré, mais pour le père aussi, parce que c'est compliqué de se placer, je pense, et de trouver sa place.
C'est passé très vite, on avait encore plein de choses à dire. J'aurais aimé parler de l'éthique, du suivi des enfants. Hélas, on arrive au terme de cette émission. Merci à tous les trois. Merci beaucoup, Marina Solé. On vous souhaite le meilleur pour les mois et les semaines qui viennent. Merci d'avoir répondu à notre invitation, professeur François Goffineau, chef de service de la maternité de Port-Royal. Et merci à vous, professeur Pierre-Henri Jarreau, chef du service de médecine et réanimation néonatale au sein de cette même maternité parisienne.
C'est la vie.
C'est la vie, la fiction radiophonique inédite. Cet été, c'est la vie. Tous les jours à Ratanga et sur RFI.
Nous n'avons pas besoin de nouvelles sages-femmes ici. Celles qui travaillent dans ce centre sont suffisamment compétentes pour faire le travail.
Mais
excusez-moi, madame la nouvelle sage-femme. J'ai du travail. Asseyez-vous et attendez le docteur Moulay.
C'est la vie, une fiction radiophonique à retrouver tous les jours à partir de 12h10 TU sur RFI.
C'est la vie, série télé qui devient feuilleton radiophonique. Nouveau rendez-vous sur l'antenne Afrique de RFI. En ligne avec nous, Mbati Odio, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes directrice de l'ONG RAES, R-A-E-S, qui a coproduit, développé l'adaptation de la série télé à la radio. Alors, c'est la vie, ça se passe dans un centre de santé. Pour resituer un petit peu, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez un petit peu nous décrire l'histoire ?
Oui, c'est la vie. C'était d'abord une série télé qui s'est déroulée dans un centre de santé où on racontait un peu l'histoire, la vie des personnages, qui sont des sages-femmes, des médecins, mais aussi des patientes. On raconte aussi dans cette série et ce feuilleton la vie du quartier, avec toutes les histoires qui peuvent se passer en histoire de couple, histoire d'amitié, etc.
Alors, c'est l'occasion de faire passer des messages de santé publique. Comment est venue cette idée, justement, de s'appuyer sur un feuilleton grand public, pour faire passer des messages, par exemple, hein, sur la santé sexuelle et reproductive, sur les liens entre les jeunes, sur la discussion sur l'éducation sexuelle? Comment tout cela est passé?
Ouais, tout est parti de l'identification du besoin d'information sur les droits et la santé sexuelle et reproductive pour les habitants d'Afrique. Et nous avons monté un projet qui se nomme C'est la vie et qui est une campagne de communication pour le changement de comportement qui vise à améliorer les connaissances, attitudes et comportements en matière des droits sexuels et reproductifs. On parle de santé sexuelle reproductive, santé maternelle et infantile, violence basée sur le genre et tout, pour amener des changements au niveau individuel et puis collectif. Donc, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un beau projet d'éducation par le divertissement dont l'élément central était la série télé qui est aujourd'hui adaptée pour la radio pour toucher le maximum de personnes possibles parce qu'en Afrique, on sait que la radio est encore vraiment très présente et ce message et ce projet contient des messages de santé qui ont été développés avec des experts techniques régionaux, locaux qui passent de la recherche formative qui nous permet d'identifier des situations, des normes, des questionnements et à les insérer dans le feuilleton. Et puis, il faut faire la relecture de ces scénarios, de ces outils pour qu'on s'assure que ces messages sont bons et bien adaptés.
Donc, une équipe, un comité scientifique qui travaille pour préparer l'émission avec tous ces personnages, notamment des jeunes, pas mal d'histoires d'amour, hein, on l'imagine, dans ce genre de fiction. Comment est-ce que la série télé a été accueillie? Et justement, est-ce que des gens ont dit, eh bien, en regardant la télé, ce qui sera bientôt en écoutant la radio, j'ai appris des choses sur ma propre santé?
Oui, de façon, je pense que la série a commencé à être diffusée depuis juin 2015. Nous avons eu quelques premiers résultats parce que nous sommes qu'au début pour le moment et on voit que avec d'après une étude Sofres sur 7 villes africaines, il y a 20 millions de personnes qui ont au moins vu un épisode en entier de C'est la vie. Donc je pense que la série qui a été diffusée sur plusieurs chaînes continentales mais aussi sur des chaînes de télévision nationale a été bien accueillie. On voit que la demande est là, tous les spectateurs demandent la saison 2. Donc on se rend compte que c'est un outil qui peut marcher, qui est vraiment d'abord un outil de divertissement, parce que c'est un programme de divertissement, et on tient à ce que ce soit des histoires vraies, naturelles, qui se passent, et que ces messages ne soient pas santé. Donc ce sont ces personnages-là qui portent ces messages, les personnages clés des histoires.
Et puis c'est important, Bakio Dio, de le dire, hein, c'est en français, mais c'est aussi en Bambara, en Wolof et en Haoussa.
Oui, ceci pour toucher aussi toutes ces tranche de la population qui ne parle pas le français et qui a aussi besoin d'informations. Donc, la série télé et le feuilleton radio ont été produits en français, mais on a fait des doublages et des adaptations pour des langues locales pour toucher le maximum de personnes.
Merci beaucoup, Mbati Odio, hein, de ces explications. On le redit, hein, C'est la vie, série d'été, fiction radio sur RFI jusqu'au 12 août. 31 épisodes de 20 minutes à 12h10, temps universel sur l'antenne Afrique. Et bien sûr sur RFI.fr en podcast. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour la fabrique, la réalise. C'est tout Samaké, Ophélie Lassène, Didier Bleu, Laurent Hérault avec nous aujourd'hui. Demain, nous allons parler des allergies respiratoires et cutanées. On attend vos messages sur la page Facebook et au 33 84 22 75 75. À demain, d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui assure la pleine forme de nos champions et championnes d'Afrique. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance. Écoute.